Monsieur Peter Nathan. Le sexe à l'époque des patriarches. Leçon pour aujourd'hui. Nous voilà parvenus à la fin de l'année. Demain soir marquera la fin de 2017 et Monsieur Weston devra être patient avec nous car nous n'aurons pas encore déménagé d'ici là. Par contre, nous avons bien l'intention de le faire peu après. Si vous avez activement suivi les médias ces derniers temps, vous aurez certainement remarqué qu'ils s'affairent à préparer une liste des faits saillants qui ont marqué l'actualité en 2017, qu'il s'agisse de faits réels ou inventés. Oui, ils préparent leur liste pour l'année 2017, et je ne doute pas que M. Ames, selon sa coutume, va aussi nous parler de la liste des événements qu'il aura considérés comme importants cette année. Alors que tous s'affairent à cette tâche, il y a un thème qui semble déjà avoir retenu l'attention de plusieurs. Cette année passera à l'histoire comme l'année des conséquences. Qu'est-ce qui a bien pu motiver certains à le décrire ainsi? Eh bien, il est indéniable que l'année qui achève a été profondément marquée par des thèmes à connotation sexuelle. Qu'il s'agisse de la controverse au sujet de l'identité de genre, de l'appartenance sexuelle d'une personne, ou de cette explosion de révélations à propos d'harcèlement, voire d'abus sexuels commis par certains. Plusieurs personnalités ont ainsi été éclaboussées. Des politiciens, des gens travaillant dans le milieu des médias, des acteurs de cinéma, sans compter ce producteur de cinéma qui a fait les manchettes à maintes reprises. Certains de ces hommes occupaient des positions de premier plan, mais cela ne les a pas mis à l'abri d'une déchéance retentissante. Ces scandales ont ensuite dégénéré en une cascade de poursuites et d'accusations, donnant ainsi naissance à un mouvement connu sous le hashtag MeToo aux États-Unis ou son équivalent Moi aussi au Canada français, ou encore « Balance ton porc en France ». Il en a résulté que de plus en plus de personnes sont ainsi sorties de l'ombre, y compris récemment des hôtesses de l'air, du personnel hôtelier et des serveuses de restaurant. C'est là un phénomène intéressant. Je ne crois pas cependant qu'il s'agisse d'un phénomène sans fondement, d'une situation irréelle. Au contraire, selon moi, cela a toujours existé. Quand j'étais jeune, mon père avait coutume de nous parler des pratiques qui étaient en usage à Hollywood, à savoir qu'il fallait jouer le jeu et accepter le fait que le sexe est la seule façon de parvenir aux positions clés et au prestige. Nous ne le prenions pas tellement au sérieux, sachant qu'il n'avait jamais été à Hollywood. Cependant, dans la ville où j'ai grandi, on savait à propos du propriétaire d'une certaine mercerie que toute femme à son emploi risquait fort de se faire harceler sexuellement par lui si elle avait le malheur de se trouver au sous-sol de son magasin en même temps que lui. Pour ma part, j'ai travaillé dans un bureau où nous avions beaucoup de commis-comptables, de même que beaucoup de dactylos. Et je connaissais les noms que les filles avaient attribués à certains types du bureau à cause de leur conduite. Rien de nouveau sous le soleil. À l'époque féodale, les rois, les évêques et les seigneurs s'y entendaient à merveille pour profiter de leur pouvoir et de leur prestige pour s'attirer des faveurs sexuelles quand bon leur semblait. Le problème est vieux comme le monde, et la Bible nous en donne des exemples convaincants. Ainsi, le livre de la Genèse mentionne plusieurs de ces scandales qui ont fait la une des journaux et des chaînes d'information au cours des deux derniers mois. Par exemple, au chapitre 9, le livre de la Genèse fait état du comportement inapproprié de Canaan envers son grand-père Noé. Disons, sans entrer dans les détails, qu'il aurait sexuellement abusé de lui. Nous ne nous y reporterons pas, mais vous pourrez le lire dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 18. Notez-le cependant, et comprenez que telle était la situation qui prévalait déjà dans le monde antédiluvien. C'est pourquoi Dieu s'était vu obligé d'envoyer le déluge sur le monde d'alors. Cependant, s'il est vrai que le déluge détruisit ce monde impie, le souvenir de leurs actes pervers n'en a pas moins survécu au déluge. Les problèmes mentionnés au chapitre 9 se retrouvent tout au long du livre de la Genèse, en fait, jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre 49, où, dès les premiers versets, Jacob parle ouvertement du comportement scandaleux de son fils aîné Ruben à l'endroit de Bilha, sa concubine, et la servante de Rachel, disant, Genèse 49, verset 1, Jacob appela ses fils et dit, Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël votre père. Verset 3. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Notez l'euphémisme employé par Jacob pour décrire le comportement inapproprié de son fils. Oui, le livre de la Genèse va souvent employer un tel euphémisme, car à l'époque, on n'avait pas encore adopté le langage cru qui est en usage aujourd'hui. Il y a cependant quelques exceptions. Par exemple, au chapitre 38, du livre de la Genèse, la Bible ne mâche pas ces mots pour décrire les actes répréhensibles commis par Judas, quand il flirte avec des prostituées pour avoir des rapports avec elles. Certains qui en seront scandalisés voudront alors que de telles pages soient collées ensemble pour qu'elles échappent à la lecture. De l'époque de Noé jusqu'à la fin du livre de la Genèse, on nous introduit à presque toutes les mauvaises pratiques sexuelles existantes. L'adultère, la fornication, l'inceste, l'homosexualité, le viol, la prostitution et le harcèlement sexuel. Que vous faut-il d'autre? La Bible ne nous épargne rien. Et ce qui est dommage, c'est que ces pratiques ne sont pas l'apanage exclusif des Cananéens ou des Égyptiens, même s'ils ont leur part de responsabilité en cela. Effectivement, les descendants du peuple choisi en sont tout autant responsables. Eux, le peuple avec qui le Seigneur avait pourtant choisi de travailler d'une façon si remarquable. La Bible fait donc état d'un grand nombre de sujets dont on serait tenté de parler à mi-voix, des sujets qui occuperaient une bonne place dans nos tabloïds actuels. Nous qui allons retourner en Angleterre sous peu serons de nouveau confrontés à ces journaux à sensation qui n'ont de cesse d'étaler sous nos yeux les derniers scandales qui auront secoué le pays. Évidemment, nous ne nous abonnerons jamais à de tels journaux. Mais il n'en reste que l'on ne pourra échapper à leur vue, car ils sont partout, au restaurant, dans les bouches du métro, et jusqu'au banc public, où certains les auront abandonnés. Les sujets scandaleux qui y seront traités n'ont finalement qu'un but, augmenter le tirage et attirer l'attention. Évidemment, ce n'est pas là le but poursuivi par Dieu. Alors, dans quel but Dieu parle-t-il de ces problèmes humains? Eh bien, M. Wallace Smith a déjà abordé ce sujet précédemment, lorsqu'il a référé à 1 Corinthiens chapitre 10, où il est dit que ces choses ont été écrites pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, afin que cela nous serve de leçon. En effet, Il est important pour nous de voir les choses avec l'optique de notre Créateur. N'oublions pas que, mis à part certains individus, tels que Sichem, fils de Hamor, qui se rendit coupable du viol de la sœur des fils de Jacob, la Bible parle surtout des méfaits des descendants du peuple choisi, de ceux avec qui Dieu travaille. Ainsi, elle parle du petit-fils de Noé, au chapitre 9 de la Genèse, et de Ruben, le fils aîné de Jacob, au chapitre 49. Cela montre que nous pouvons être influencés par le monde autour de nous. Nos vies, nos attitudes pourront subir l'influence du monde dans lequel nous vivons. À ce propos, je vous encourage de lire les écrits de Dr. Douglas Winnell qui ont paru dans nos commentaires de la semaine. Je ne savais pas qu'il allait parler de cela au moment de préparer mon sermon, mais laissez-moi vous résumer les propos qu'il a tenus dans cette publication. Je cite. Une autre tendance qui se manifeste de plus en plus clairement dans notre société, c'est cette acceptation croissante et même cette promotion de comportements dépravés, qu'il s'agisse d'exploitation sexuelle, d'homosexualité flagrante, de mariage entre gens du même sexe ou d'autres conduites déviantes du genre. Il semble que le monde ait mis en oubli le sort que Dieu réserva à la société antédiluvienne, ainsi qu'aux habitants des villes de Sodome et Gomorre, pour les ignobles péchés dont ils s'étaient rendus coupables. Une leçon importante que nous pouvons dériver de l'exemple de Lot et de sa famille, c'est qu'ils étaient devenus tolérants envers ce qui se passait autour d'eux, et c'est la raison pour laquelle ils avaient hésité à quitter cette société perverse. Souvenez-vous de la femme de Lot, qui devint une statue de sel parce qu'elle s'était retournée dans sa nostalgie pour ce qu'elle devait laisser en arrière. Fin de la citation. Comme M. Wallace Smith l'a dit tout à l'heure, Dr. Winnell insiste, lui aussi, sur le fait que notre société retourne aux voies de Sodome. Souvenons-nous donc des exemples de l'Ancien Testament et sortons nous aussi de ce monde et de ses mauvaises voies. Le livre de la Genèse nous expose à un monde qui est coupé de son Créateur. Seuls quelques individus épars feront l'objet d'un appel de Dieu, certainement pas de grands groupes de personnes. On n'y entend pas dire, comme dans Actes chapitre 2, que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Non. À cette époque, Dieu n'appelait que quelques individus et leurs familles. Il nous faut comprendre comment ceux-ci étaient affectés par le monde autour d'eux, un monde auquel il manquait toute forme de justice divine. Il leur fallait donc apprendre des leçons. Quels étaient les défis qu'ils allaient devoir relever? Comment ont-ils réagi face à ces défis? Et vous savez, il ne faut pas se leurrer, on pourrait en dire tout autant de nous. Nous, au moins, nous avons accès au manuel de vie que Dieu met à notre disposition. Que nous dit le manuel? Si vous voulez bien vous tourner vers Genèse chapitre 20, nous y verrons l'exemple que nous laisse Abraham. Dans Genèse chapitre 20, verset 1, il est question d'Abraham alors qu'il s'établit à Guérar, une ville où Abimélec était roi. Sarah, la femme d'Abraham, était fort belle et n'aurait certainement pas nécessité de retouches par Photoshop. De fait, sa beauté était telle que tout roi qui entrerait en contact avec elle aurait désiré la prendre dans son harem. Le verset 2 nous dit qu'Abraham la faisait passer pour sa sœur, ce qui eut pour conséquence qu'Abimélec la fit enlever. Nous voilà aux prises avec un cas d'adultère. À noter que ce n'est pas la première fois qu'Abraham se met dans un tel pétrin. En effet, il avait vécu une situation similaire dans Genèse chapitre 12. Cette fois-ci, cependant, Dieu apparaît en songe à Abimélec durant la nuit pour lui annoncer « Voici, tu vas mourir ». Un réveil plutôt brutal, n'est-ce pas? Dieu lui fait comprendre que c'est à cause de Sarah qu'il a enlevé, parce qu'elle a un mari, en l'occurrence Abraham. Ceci est un cas d'adultère. Le verset 4 précise qu'Abimélec ne s'était pas encore approché d'elle. Abimélec défend alors sa cause en faisant valoir qu'il avait été dupé, qu'on lui avait fait croire qu'elle était la sœur de cet homme, et que, dans ces circonstances, ni lui ni son peuple ne méritaient la mort. Dieu tient à le rassurer, reconnaissant qu'Abimélec avait agi avec droiture de cœur, et que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il l'avait empêché de pécher contre lui, en veillant à ce qu'il ne s'approche point d'elle. Dieu lui ordonne cependant de remettre Sara à son mari, qui est prophète, et qui va prier pour lui afin qu'il ne meure pas. Si Abimélec refusait d'obéir, son sort, de même que celui des siens, serait scellé. Que feriez-vous si vous vous trouviez confronté à une telle situation? Je suppose que vous seriez impatient de voir poindre le jour afin de prendre les mesures qui s'imposent. Je ne crois pas qu'Abimélec ait bien dormi après avoir eu ce songe. Genèse 20, verset 9. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Verset 10. Et Abimélec dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » La réponse d'Abraham est des plus intéressantes. Notez-le. Verset 11. Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » Puis au verset 12 et 13, il essaie de se justifier en faisant valoir le point qu'elle était vraiment sa demi-sœur. Par ailleurs, conscient de sa beauté et des risques qu'il encourait à cause de cela, il avait convenu avec elle de la faire passer pour sa sœur, car il tenait à sa peau. On peut alors se poser des questions quant à la foi d'Abraham à cette étape de sa vie. D'accord, ce qui avait pu le motiver à jouer ce jeu, c'était probablement parce qu'il ne s'attendait pas à ce que les gens de l'endroit aient une quelconque crainte de Dieu. N'empêche qu'il avait tout de même mis en péril la vie de tous ces gens, sans compter la sienne et celle de sa femme, et cela parce que sa propre crainte de Dieu laissait à désirer. Il est vrai que deux chapitres plus loin, dans Genèse chapitre 22, après avoir reçu l'ordre de sacrifier son fils Isaac, nous voyons Dieu qui le félicite en disant, au verset 12, Genèse 22, verset 12, « Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Cependant, à l'époque de Guérar et de ses démêlés avec Abimélec, il apparaît que la foi d'Abraham n'était pas encore aussi ferme. C'est pourquoi il avait eu recours à ses expédients humains. Son but immédiat, en la circonstance, était de sauver leur peau. Il ne se demandait pas comment leur mariage allait être affecté par ce petit jeu, ni comment Dieu allait pouvoir leur accorder la promesse d'un héritier au cas où Sarah serait confinée dans le harem d'Abimélec. Abraham souffrait manifestement de myopie à l'époque. Cela dit, en guise de contraste, j'aimerais maintenant citer l'exemple que nous laisse l'arrière-petit-fils d'Abraham, Joseph. Comme vous le savez, Joseph fut vendu en tant qu'esclave au pays d'Égypte. Là, il se rendit vite indispensable à son maître, mais devint simultanément la cible des convoitises de la femme de ce dernier. Après l'incident dont parle Genèse chapitre 38, un chapitre que les âmes sensibles préféreront éviter, car il y est notamment question des relations incestueuses de Judas avec sa belle-fille Tamar, nous en venons à ce chapitre qui relate la vie de Joseph en Égypte. Genèse chapitre 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Verset 2. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et il lui confia tout ce qu'il possédait. Incroyable. On peut ici parler d'une ascension fulgurante. Curieusement, la fin du verset 6 ajoute « Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. » Il semble donc que Joseph avait tout pour plaire. Il a vraisemblablement dû hériter de certains gènes de Sarah. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi. » Je me souviens qu'à l'époque où je fréquentais l'université, quelqu'un m'avait offert un billet pour voir l'avant-première du film « Le Lauréat », un drame ou film d'amour qui est sorti en décembre 1967. Eh bien, laissez-moi vous dire que notre époque a aussi son équivalent de la femme de Potiphar. Poursuivons, verset 8. Il refusa, Joseph refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Il semble donc qu'une leçon ait été apprise entre les chapitres 20 et 39 du livre de la Genèse. Une leçon qui a au moins été retenue par un membre de cette famille, à savoir qu'une telle relation constituerait un péché. Nous connaissons évidemment la fin de l'histoire. Comment Joseph finit en prison pour avoir refusé ses avances, devenant ainsi la victime de fausses accusations, une situation qui a dû se répéter à maintes reprises au cours de l'histoire. Mais Joseph était bien déterminé à ne pas se laisser entraîner dans une telle relation illicite, sachant fort bien que cela l'aurait amené à pécher contre Dieu. Cela est conforme à la leçon qui peut être dégagée de Genèse chapitre 20, où Dieu communique en songe le même concept à Abimélec, disant « Oui, Abimélec, je sais que tu as agi avec un cœur pur, car tu ne savais pas que cette femme était mariée. Et c'est précisément la raison pour laquelle je ne t'ai pas permis de t'approcher d'elle, car tu aurais péché contre moi en le faisant. » C'est là ce que nous lisons dans Genèse chapitre 20 au verset 6. Notez que Dieu n'y va pas par quatre chemins, ajoutant même que si Abimélec refusait de la rendre à son mari, il perdrait la vie, lui et tous ceux qui lui appartiennent. Dans le livre de la Genèse, la Bible relate tous ces cas d'inconduite sexuelle afin que nous puissions bien comprendre que de tels comportements nous feraient pécher envers notre Dieu, notre Créateur et Père céleste. Imaginez un peu les changements qui se produiraient dans notre société si les gens se pénétraient de ce concept et réglaient leur conduite en conséquence. Vers le début de ce demi-sermon, je disais que cette année allait passer à l'histoire comme étant l'année des conséquences. Cette expression est en fait le titre d'un article qui a été publié dans un magazine new-yorkais qui m'avait passé entre les mains à un moment donné. Grâce à Internet, j'ai pu retracer ce magazine. Et quel ne fut mon étonnement lorsque je vis le titre du dernier article qu'on y publiait. Article qui s'intitulait Les meilleures scènes de sexe au cinéma et à la télévision en 2017. Quelle contradiction! D'un côté, on s'offusque du comportement de certains hommes qui se rendent coupables d'exploitation et de harcèlement sexuel. D'un autre côté, voilà que, pas longtemps après, ont publié un article pour glorifier un tel comportement. À n'en pas douter, notre monde nage dans la confusion. Pourtant, à travers les pages du livre de la Genèse, Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance à propos des problèmes sexuels que les gens avaient à cette époque. Pour sa part, l'apôtre Paul reprend ces mêmes thèmes lorsqu'il s'adresse aux membres de l'église de Corinthe. On le sait, l'église de Corinthe avait la fâcheuse réputation de se trouver dans une ville bien connue pour ses débordements sexuels, ses aberrations dans le domaine. Paul s'efforçait de les mettre en garde, et, par extension, il nous met en garde nous aussi. Nous ferions bien de prêter l'oreille à de tels avertissements et ne pas fermer les yeux sur les inconsistances de notre société contemporaine qui met tellement l'accent sur le sexe, le plaisir, la satisfaction du soi, en un mot, l'hédonisme. Pas étonnant donc qu'une telle société soit portée à présenter les meilleures scènes de sexe, car n'est-ce pas là ce que chacun recherche? Ce dont on veut se délecter. Ce qu'on semble oublier, ou plutôt que la plupart ignorent, c'est que le livre de la Genèse condamne ce genre de comportement. Oui, ce livre se prononce contre ces pratiques hédonistes, se laisser aller en matière sexuelle, car notre Créateur n'est pas impliqué dans de telles pratiques. N'oublions pas que c'est Dieu qui a créé les hormones de notre corps, ainsi que les pulsions sexuelles qui en découlent. Lui seul est habilité à nous dire comment en faire usage à bon escient, selon ce qu'il avait planifié. Veuillez à présent vous reporter à 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 15, où il est dit, 1 Corinthiens 6, verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ainsi, depuis que nous nous sommes déclarés pour Christ, nous ne nous appartenons plus. Notre but est à présent le royaume de Dieu. Nous voulons en faire partie à tout prix et faire bénéficier la création de ce que Dieu lui apportera. Nous sommes bien conscients des problèmes qui confrontent ce monde. Et comprenons que nos corps ne nous appartiennent plus pour que nous en fassions ce que bon nous semble. Et Paul d'ajouter, « Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ?» Verset 16, « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ?» Cela dit, certains vont considérer que la prostitution n'est rien d'autre qu'un échange de services, impliquant bien sûr une rémunération. Il est un fait que notre société est vendue à ce genre de perversion. Tout à l'heure, M. Smith a mentionné ces films qui remontent à quelques années en arrière. Je n'ose même pas imaginer ce qui a été produit depuis. À nouveau, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Cela nous ramène au chapitre 2 de la Genèse, où Dieu, le Logos, se présente comme celui qui nous a créés et placés dans le jardin d'Éden, tout en définissant la nature des relations qu'il a prévues pour l'homme et la femme. Puis au verset 17, il dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Au verset 18, il en vient à cette recommandation que tout parent va faire à son enfant. Voyons-le, verset 18, « Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps. » Si nous portions à présent les regards sur les conséquences de tous ces événements qui sont décrits dans le livre de la Genèse, L'impression qu'on en retirerait n'aurait rien d'encourageant, rien qui pourrait nous réjouir. Finalement, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Encore une fois, nous ne nous appartenons plus. Nous sommes maintenant à Christ. C'est lui qui va à présent nous dicter notre comportement. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quelle est notre perception de nous-mêmes? Comment nous voyons-nous dans ce monde? À quel point désirons-nous nous impliquer dans ces voies? Espérons que ce ne sera pas notre intention. Voyons 1 Thessaloniciens chapitre 4, où l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe, de même qu'aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Voilà ce que nos vies devraient refléter à présent. Elles devraient refléter les fruits de l'Esprit. Tout ce qu'elles devraient refléter n'est pas abordé ici. Il faudra aussi consulter d'autres passages pour cela. Continuons verset 2. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est ce qui est attendu de nous, qui sommes les prémices de Dieu. Et il ajoute, au verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Oh, certes, le sexe a sa place quand on le considère dans le contexte du mariage. Et Paul souligne ce point en disant que le mariage doit être honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Oui, c'est là une belle chose que Dieu a créée pour consolider l'union d'une femme et de son mari. On peut dire que Paul reprend et élabore ici sur un thème qui avait déjà été introduit dans le livre de la Genèse à propos d'Abraham d'une part et de Joseph d'autre part. Lorsque nous voyons la décadence des mœurs dans notre société, lorsque nous subissons l'influence des médias, comment cela affecte-t-il notre façon de penser et notre vision du monde? Vous savez, tout ce qui nous parviendra de ces sources n'est pas nécessairement truqué. Hélas, non. Je dirais même que ça ne reflète qu'une partie de la réalité. Je le sais car je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Je suis très au courant de ce qui se passe dans le monde, de la façon dont les gens mènent leur vie. À nouveau, est-ce principalement les médias qui vont influencer notre façon de vivre? Ou sera-ce la parole de Dieu? Nous laissons-nous guider par ce manuel de vie qu'il nous donne afin de cultiver de bonnes relations avec quelqu'un du sexe opposé? Est-ce la crainte de Dieu qui nous motivera dans les rapports que nous aurons avec notre époux ou épouse ou une personne du sexe opposé que nous serions amenés à fréquenter? Pensez-y. Comme Abraham dut l'apprendre, et comme Joseph l'avait appris, il parvint à refléter la voix divine en cela. J'espère que nous ne manifesterons pas un comportement licencieux comme celui de Judas, du prince de Sichem ou de Ruben. Qui prendrons-nous pour exemple? Aurons-nous profité de l'exemple d'Abraham? Si oui, nous pourrons comprendre et apprécier ces exhortations que Paul adresse aux Corinthiens ainsi qu'aux Thessaloniciens. Il est intéressant de noter que Juste avant de s'adresser aux maris et aux femmes, à la fin du verset 21 d'Éphésiens 5, Paul nous exhorte de nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Avoir la crainte de Christ suppose que nous comprenions qui il est et ce qu'il nous dit, ce qui dirigera nos pas. Nous pourrions aussi considérer le psaume 119, comme M. Smith l'a fait précédemment, et nous demander comment procéder pour nous orienter dans la vie. La réponse devrait bien sûr être « Nous suivrons sa parole, nous développerons un profond respect pour les choses de Dieu, pour ses normes et les intentions qu'il nourrit à notre égard. » Tout cela afin de pouvoir véritablement atteindre le but qu'il a fixé pour chacun de nous.